Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Urbaflore, émission dédiée aux plantes sauvages menacées et protégées, dont l'un des objectifs est d'en parler pour mieux les connaître, connaître leur univers, leurs particularités, le monde dans lequel elles vivent et que l'on partage quotidiennement avec elles. Je vous propose en ce mois de rentrée d'écouter et de répondre à plusieurs questions d'enfants qui s'interrogent sur la flore et la biodiversité, mais pas que. Merci à ces insatiables curieux de la vie de s'être prêtés à cet exercice dans une période et un temps d'apprentissage où la biodiversité et sa préservation sont un sujet riche et central aujourd'hui et pour demain.
Et merci à toi, Jérôme, d'animer chaque mois cette émission Urbaflore, l'émission du Conservatoire Botanique National de Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Tu y es chargé de conservation et dans cette émission, on va parler de certaines propriétés et capacités des plantes. C'est donc la première question.
Bonjour, j'ai 9 ans. J'ai une question. À combien de mètres d'altitude les arbres et les plantes ne poussent plus ?
Merci pour ta question. En France, il existe une limite de la forêt ou des arbres en montagne qui correspond à une zone au-dessus de laquelle ils ne poussent plus. Ce sont des conifères comme le mélèze d'Europe, le pin sambreau ou le pin accroché qui sont à cette limite et qui sont assez résistants pour survivre au froid, au sol pauvre et sec et aux ultraviolets. En moyenne, en France, les arbres cessent de pousser vers 2000-2400 mètres d'altitude à cause de ces conditions climatiques extrêmes qui limitent leur croissance. Au niveau des racines, il faut qu'il fasse plus de 5 à 7 degrés à la bonne saison pour qu'un arbre puisse pousser. Un peu plus en altitude, les plantes herbacées, elles sont en général composées de graminées comme la fétuque, la canche, le pâturin des Alpes ou le nared. Ces plantes, ces graminées, peuvent se développer, mais au-delà de 3000-3500 mètres, ne survivent que des mousses, des lichens et des algues microscopiques.
Écoutons la prochaine question.
Je me questionne, comment s'appelle le plus grand arbre de France et combien de temps peut-il vivre ?
Merci beaucoup pour cette question très précise. Après quelques recherches, voici ce que j'ai trouvé. Le plus grand arbre de France est un sapin qu'on appelle le Douglas Président. Il a été planté en 1892 dans la Loire et il atteint environ 67 mètres de haut. 67 mètres, c'est à peu près la hauteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui mesure 69 mètres. C'est plus haut que l'église de Caussade, qui mesure 54 mètres. Et c'est l'équivalent d'un immeuble de 22 étages. Le sapin de Douglas peut vivre jusqu'à 500 ans. Après, nettement plus petit, avec ses 15 mètres de haut, il y a l'olivier de Roquebrune, Cap Martin, dans les Alpes-Maritimes. Il est considéré comme l'arbre le plus ancien de France, avec un âge estimé à 2000 ans.
On change un peu de thème pour parler de plantes originales.
Je voudrais savoir comment vivent les plantes carnivores.
Ah, les plantes carnivores, un sujet passionnant. Elles sont très intrigantes car elles ont développé des adaptations très poussées face aux particularités de leur milieu de vie. Ce sont des plantes qui font la photosynthèse, mais elles ont en plus transformé leurs feuilles pour capturer et digérer les insectes ou les petits animaux pour obtenir des aliments supplémentaires, comme de l'azote, car il n'y en a pas là où elles poussent. En France, on a par exemple le rosolis ou la drosera, qui poussent dans des tourbières acides. Les tourbières, ce sont des milieux très humides où on va trouver des sphaignes, qui sont des mousses. Et les sols sont pauvres en matière nutritive. Les feuilles, là, dans le cas des rosolis et des droseras, les feuilles portent des poils glanduleux. Et à l'extrémité de ces poils, il y a une espèce de glu qui brille et qui va attirer les insectes. On a aussi en France une autre plante carnivore qui s'appelle la grassette. Elle va pousser sur les parois rocheuses humides, sur lesquelles il y a un léger écoulement d'eau. Et là, les feuilles sont aussi couvertes de courts glandes, de poils glanduleux. Quand l'insecte se pose dessus, la feuille va s'enrouler autour de l'insecte et le digérer petit à petit. Après, on a une autre plante carnivore qui est probablement l'une des plus connues, qui vit naturellement aux États-Unis, mais qu'on peut trouver dans les jardineries, c'est la dionée attrape-mouche. Elle a c'est une plante dans son milieu naturel qui pousse dans des marais acides. Et la particularité, c'est que ses feuilles ressemblent à des espèces de grosses mâchoires. En fait, c'est un piège qui se referme rapidement. Une fois que l'insecte a touché trois poils sur ses feuilles, paf, ça se referme assez vite et l'insecte est digéré en quelques jours. On a d'autres plantes en forêt tropicale humide d'Asie du Sud-Est, de Madagascar ou d'Australie, comme les népenthes, qui ont une feuille qui est terminée par une sorte d'urne qui pend. Et dans cette urne, il y a un liquide digestif. Les animaux qui arrivent sur le bord glissent, en fait, et n'arrivent pas à ressortir. Et c'est comme ça qu'ils sont digérés et consommés par les népenthes. Et un peu équivalent, il y a les Sarracenia, qui vivent dans des marécages acides d'Amérique du Nord. Là, la feuille complète est transformée en espèce de tube, une sorte de trompette avec la tête vers le haut. En général, elles ont des formes, elles ont des couleurs pardon, qui sont vives et elles émettent des odeurs qui attirent les insectes. Et ces insectes, pareil, glissent à l'extrémité de ce tube, de cette trompette, et vont au fond de l'urne où ils sont digérés par des liquides qui les décomposent.
Une nouvelle question concernant d'autres particularités des plantes.
Peut-on mélanger deux espèces de végétaux pour n'en faire qu'une ?
Alors oui, et ça s'appelle l'hybridation. Ça se fait naturellement, hein, c'est un croisement entre deux espèces qui sont proches, ou ça peut se faire artificiellement par la main de l'homme. C'est le cas chez les animaux, par exemple du mulet, qui est un croisement entre la jument et un âne. Pour donner quelques exemples chez les végétaux, on a la menthe poivrée. En fait, on a trouvé que c'était un croisement entre la menthe aquatique et la menthe verte. Et on a aussi toutes les variétés cultivées, notamment les variétés de blé moderne, qui sont issues de multiples hybridations faites par l'homme à partir d'un blé tendre qui est lui-même originaire d'une céréale qui a été domestiquée à partir de graminées sauvages. L'hybridation, en général, végétale, elle se fait en mettant du pollen donc d'une fleur mâle, les parties mâles de la fleur, sur les parties femelles, le pistil d'une autre espèce ou d'une autre variété de fleurs. Et c'est comme ça qu'on fait une hybridation chez les végétaux. Par contre, toutes les espèces ne s'hybrident pas. Il faut vraiment qu'il y ait une certaine proximité, une certaine compatibilité génétique pour que ça fonctionne. Bon, c'est un phénomène assez complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut aussi associer deux plantes. Bon, ce n'est pas vraiment un mélange, mais c'est une association de deux plantes en utilisant la méthode de la greffe. On va utiliser la partie racinaire d'une espèce et la partie aérienne d'une autre. Ce sont des espèces qui sont compatibles, sinon la greffe ne fonctionne pas. Et c'est le cas, par exemple, d'un poirier ou d'un pommier. On va prélever une partie aérienne sur un poirier ou un pommier particulier et on va le greffer sur ce qu'on appelle un porte-greffe de cognassier, par exemple. On a également le citronnier qu'on peut greffer sur un oranger, le rosier cultivé qu'on peut greffer sur un rosier sauvage, et pareil pour le prunier, cultivé sur un prunier sauvage. Hey, mais c'est l'heure! Allez, je vous propose une petite pause musicale. On va écouter Sunflower de Post Malone et Swae.
Don't make it easy, no. Wish I could I'm walking out. I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. And you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. Think your love would be too much, or you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower, you're the sunflower.
C'était le choix musical de Solia pour cette émission. Urbaflore à l'émission du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. On parle aujourd'hui de propriété des plantes dans cette émission et ce sont les enfants du CE2 au CM2 qui posent les questions.
J'ai une question. Quelle est la plante la plus dangereuse ?
Y a-t-il plus de végétaux toxiques que non toxiques ?
Merci pour ces questions. On va naviguer du sorcier au médecin et de l'empoisonneur au chaman. La première question est donc de savoir s'il y a davantage de plantes qui ont un effet nocif sur la santé. Ma réponse serait plutôt non. La majorité des plantes ne sont pas toxiques et c'est ce qui fait qu'on peut les manger sans être malade. Elles sont même très bonnes pour la santé. Je pense notamment aux fruits et légumes de saison que tu dois connaître. La pomme, la poire, la figue, le raisin, les noisettes, les courges, les tomates, etc. On estime que moins de 10% des plantes sont très toxiques pour l'homme et peuvent occasionner des effets nocifs internes ou externes. Leurs effets sont variables selon la quantité et la partie de la plante concernée, donc soit la racine, soit la tige, soit la fleur, soit le fruit, qui contiennent plus ou moins de composés toxiques. Il y a certaines familles de plantes, notamment les plantes de la famille des renoncules ou des solanums. Les solanums, c'est la famille de la pomme de terre ou de la tomate. Ça ne veut pas dire que la pomme de terre et la tomate sont toxiques, on est d'accord, mais il y a des espèces de cette famille-là qui contiennent des substances toxiques. Et concernant la deuxième question, de savoir quelle est la plante la plus dangereuse, je dirais que parmi les plus toxiques, il y a l'aconite napel, qu'on appelle aussi tulou, qui est connue dès l'Antiquité sous le nom d'arsenic végétal. Et cette plante est justement de la famille des renoncules et du bouton d'or. Elle contient un poison particulier qu'on appelle l'aconitine. Et toutes ces parties sont extrêmement toxiques pour les animaux. Quelques milligrammes peuvent tuer un homme. Il y a également des plantes qui sont dangereuses par contact. Elles contiennent des substances irritantes. C'est le cas de la berce du Caucase, qui est par ailleurs une espèce exotique envahissante. La berce du Caucase, c'est une plante de la famille des carottes. Et au niveau de la fleur, je ne sais pas si tu as en tête la forme de la fleur de carotte, ça fait une espèce d'ombelle. Et la berce du Caucase, c'est une énorme ombelle, en fait. On ne peut pas passer à côté sans la voir, quoi.
Je crois qu'on appelle ça la pastenada dans le coin.
J'en ai aucune idée. Désolé.
Ça brûle et ça fait des cloques.
Ah, d'accord. Eh bien, ça pourrait correspondre à ça, alors, effectivement. Parce que sa sève rend la peau très sensible au soleil, en fait. Si... On ne se rend pas compte, dès qu'on a la sève sur la peau, on ne fait pas attention, mais si on est exposé au soleil, ça provoque des brûlures et des cloques qui sont très douloureuses. Ouais. On a l'impression qu'on s'est fait brûler. Faut se méfier également des euphorbes qui ont un latex blanc qui peut être irritant pour la peau et les yeux. Il y a l'arôme également. Il faut faire attention au contact avec les feuilles ou les baies. Ça provoque des irritations et des brûlures cutanées. Et puis, il y a la fameuse ortie qu'on connaît tous, dont les poils urticants injectent un produit qui est douloureux et qui provoque des brûlures, qui s'appelle l'histamine. Ensuite, il y a des plantes qui sont dangereuses si on les mange. Elles contiennent des alcaloïdes ou des toxines qui peuvent être mortelles. On n'y pense pas, mais on le plante souvent. Le laurier rose a toutes ces parties en fait, qui sont très toxiques, avec un effet sur le cœur. L'if, également, c'est une plante qu'on trouve dans certains parcs et jardins. Les aiguilles et les graines contiennent des substances qui sont mortelles pour l'homme et aussi pour les chevaux. Le 1er mai, on offre du muguet. Je vous invite à ne pas manger les fleurs et les baies qui sont également toxiques. Le ricin, c'est aussi une plante ornementale dont on extrait de l'huile. l'huile de ricin, qui est une huile qui est apaisante, mais il faut savoir que la graine, elle est extrêmement toxique, car elle contient de la ricine. L'huile de ricin, elle est fabriquée à partir des graines de ricin. Sauf que la ricine, elle est soluble dans l'eau. Comme on extrait l'huile, eh bien, il n'y a pas de ricine dans l'huile, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, il y a les plantes qui sont problématiques à partir du moment où on respire notamment leur pollen ou leur parfum. Je pense notamment à une autre espèce exotique envahissante qui est l'ambroisie. Hein. Le pollen provoque des allergies en fin d'été, en cette saison notamment, avec des problématiques de rhinite et d'asthme. Et puis on connaît tous au printemps les pollens de graminées, de bouleaux ou de cyprès qui provoquent un certain nombre d'allergies et d'éternuements. Et enfin, je voulais prendre l'exemple de la datura. Si on respire de façon trop prolongée ces fleurs, elles libèrent aussi des substances qui peuvent causer des troubles nerveux. Et il faut savoir aussi que beaucoup de médicaments modernes proviennent de substances naturelles qui sont extraites de plantes. Et c'est la dose de substance active qui va faire la différence entre un médicament et un poison.
Et justement, on a une question sur les vertus médicinales des plantes qui vient clore cette émission du jour.
Bonjour, j'ai 10 ans. Je me demande pourquoi certains végétaux sont utilisés comme médicaments.
Un bel enchaînement, en effet. Merci pour ta question. Avant de te répondre, je voulais préciser aussi pourquoi les plantes produisent des substances toxiques. Il y a plusieurs raisons. D'abord, on peut évoquer le fait que ça permet aux plantes de se défendre vis-à-vis des herbivores pour éviter qu'ils ne la mangent. Le tabac, qui est dangereux pour la santé, contient de la nicotine. Et à la base, la nicotine, c'est pour éviter que des chenilles ne viennent boulotter les feuilles de tabac. On va trouver aussi la morphine dans le pavot ou la caféine dans le café. Tous ces éléments-là, peuvent paralyser ou perturber le système nerveux des insectes et de certains mammifères. Les substances toxiques permettent aussi de protéger la plante des infections et des microbes, hein, des bactéries, des champignons ou des virus. Le thym, par exemple, produit des huiles essentielles, ou l'origan, pareil, produit des huiles essentielles qui ont une action antibactérienne. Ça permet aussi d'entrer en compétition avec d'autres plantes. J'ai en tête l'exemple du noyer qui sécrète une substance toxique qui s'appelle la juglone. Elle va empêcher les autres plantes de pousser sous son feuillage, donc ça évite totalement la concurrence au niveau des racines. Et c'est un phénomène qui s'appelle l'allélopathie. Ça vient du grec allélon, qui veut dire l'un l'autre. Il y a une notion de réciprocité, et pathos qui signifie la souffrance. Voilà, et puis ces substances, elles peuvent aussi parfois attirer des pollinisateurs ou repousser des insectes nuisibles. Voilà, sinon, donc, pour en revenir à ta question, certaines plantes sont effectivement utilisées comme médicaments parce qu'elles produisent naturellement ces substances actives qui peuvent agir favorablement sur l'organisme humain. Par exemple, l'aspirine, c'est dérivé de l'acide acétyl salicylique ou salicyline qui est extraite du saule et de l'arène des prés. On a aussi la digitaline qui provient d'une plante qui s'appelle la digitale et qui permet de traiter le cœur. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de médicaments modernes qui sont fabriqués de manière synthétique à partir de réactions chimiques compliquées. Mais il faut garder à l'esprit qu'à la base, l'homme il s'est soigné en utilisant des substances végétales prélevés dans son environnement, parmi les végétaux qui poussaient dans son environnement. Et il a pu tester des tisanes, des mixtures, des fermentations. Alors peut-être que parfois il s'est empoisonné, on ne le saura pas. Mais parfois, ça lui a permis de se guérir ou d'aller mieux. Et puis, il a pu aussi trouver des médicaments en observant certains animaux qui se soignaient déjà avec certaines plantes. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de préserver la nature, de respecter, de défendre les plantes et leur habitat, je pense notamment aux forêts tropicales, parce que ce sont des milieux et des espèces qui possèdent une immense diversité de molécules qui sont méconnues et qui sont une ressource extraordinaire pour d'éventuels futurs médicaments. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, ici s'achève cette émission Urbaflore sur certaines propriétés végétales, mais je vous invite à nous retrouver le mois prochain avec de nouvelles interrogations sur l'histoire, l'évolution et la protection des plantes. Questions toujours aussi pertinentes et riches, auxquelles j'essaierai d'apporter des réponses. Merci encore à nos jeunes avides de savoir d'avoir partagé leurs interrogations sur le monde fascinant du végétal et de la biodiversité. Ouvrez l'œil, restez curieux, posez-vous des questions et partagez-les.
Et merci à toi, Jérôme, d'y répondre à ces questions dans cette émission Urbaflore. Urbaflore, c'est l'émission du Conservatoire Botanique National des Pyrénées, de Midi-Pyrénées. Et Jérôme, tu y es chargé de conservation. Merci beaucoup, au mois prochain.
Merci Lisa, merci à tous. À très bientôt.